BFM Radio, 01 Business, l'innovation technologique au service de votre entreprise. Frédéric Simotel.
Bonsoir et bienvenue dans l'émission 01 Business. Fuite d'informations, perte, vol de données, intrusion involontaire ou frauduleuse dans les systèmes d'information, utilisation de la messagerie. Les entreprises ne manquent pas de risques en matière de défaillance de sécurité. Mais qui est responsable de tout cela? Le PDG, le DSI, le directeur juridique. Voilà, nous allons aujourd'hui parcourir les rouages technologiques et juridiques des entreprises pour comprendre à quoi sont aujourd'hui confrontées les entreprises en termes de risques juridiques liés au numérique. Voilà, l'ouverture à Internet a bien sûr ouvert tout un tas de failles, la prolifération des messageries, les réseaux sociaux, c'est tout un tas d'accès aux données de l'entreprise. Et la loi s'est durcie aussi et désigne aujourd'hui des responsables. On va en parler pendant une heure sur BFM Radio. Peut-on encore prévenir et lutter contre les délits numériques? À quelle stratégie judiciaire peut-on avoir recours? Les risques juridiques en entreprise, c'est tout de suite sur BFM Radio dans 01 Business.
01 Business, l'innovation technologique au service de votre entreprise. Uniquement sur BFM Radio.
Et pour aborder avec nous ce soir sur BFM Radio ce thème des risques juridiques en entreprise, je reçois trois invités. Le premier a une approche à la fois stratégique, technique et juridique des dossiers dans les conflits qui opposent les différents acteurs de l'Internet et de la société de l'information. Il va nous expliquer justement quels sont les acteurs susceptibles de voir leurs responsabilités engagées, comment exploiter les données techniques concernant un site, une personne. Il est aujourd'hui avocat, directeur du département Internet contentieux au sein du cabinet Alain Bensoussan. Mathieu Prudhomme, bonsoir.
Bonsoir.
Notre deuxième invité a une expérience de plus de 10 ans dans la sécurité informatique et 20 ans dans le domaine de l'informatique. Il a une formation multiple dans le domaine de la sécurité. Il a un DESS d'intelligence économique, un master sécurité et réseau de Subtelecom. Ses fonctions extra-professionnelles sont elles aussi liées à la sécurité. Il termine en effet un doctorat en sécurité à la Sorbonne et les tribunaux font appel à lui, on l'a compris, comme un expert judiciaire dans les domaines civils et pénal. Il va nous expliquer tout ça. Il est aussi responsable sécurité des systèmes d'information de la société Eiffage. C'est le 8e groupe européen de BTP. Fabrice Pizzi, bonsoir.
Bonsoir.
Notre troisième invité est une CIL. Alors, entendez par là une correspondante informatique et liberté. Elle s'assure entre autres que sa société respecte les règles édictées par la CNIL et c'est une lourde tâche dans le groupe dans lequel elle travaille. 417 sociétés, 71 000 salariés. C'est Dareva dont on parle puisque c'est chez ce leader mondial dans l'énergie qu'Hélène Legras travaille. Bonsoir.
Bonsoir.
Et vous êtes aussi administrateur de la FCDP, c'est l'association française des correspondants données personnelles. Pas de coup de pouce cette semaine à une start-up, mais vous retrouverez cette séquence la semaine prochaine. Et puis Élise Barbé viendra nous parler, elle qui est journaliste à 01, viendra nous parler du téléchargement illicite dans les entreprises. Et oui, ça existe et puis on verra si on peut le combattre et comment maîtriser tout cela. Et sans oublier Anis Mbida, journaliste chez 01 Informatique, avec qui nous allons démarrer dans un instant un premier tour du monde de l'actualité high-tech. Voilà un sommaire très riche dans 01 Business. Alors nous démarrons tout de suite notre émission avec vous, Anis Mbida, journaliste chez 01, bonsoir.
Bonsoir.
Alors Anis, c'est le divorce entre HP et Cisco.
Et oui, c'est un divorce...
commercial.
Divorce commercial en bonne et due forme. HP était l'intégrateur de Cisco, qui était son vendeur, était revendeur certifié Cisco. Et bien c'est terminé tout ça. Cisco a décidé de ne pas renouveler la certification d'HP. Ils ont, en citant le président, il dit « nous voulons être transparents ». Nous allons concurrencer de plus en plus HP dans l'avenir. Alors pour mémoire, on sait que Cisco s'est lancé dans les serveurs il n'y a pas si longtemps, et donc il est en frontal avec HP, notamment sur tout ce qui est serveur LAM. Et donc quand on est partenaire commercial, souvent on partage ses roadmaps, son carnet de route des produits futurs.
Et alors la réaction de HP,
c'est quoi? Ça la fout mal évidemment quand deux concurrents partagent leur roadmap futur. La rédaction d'HP, c'est comme tout le monde dans le cas d'un divorce, et bien on refait sa vie, et donc HP refait sa vie à trouver un nouveau partenaire pour ses réseaux. Ce sera Qlogic qui va prendre la place de Cisco dans le lit conjugal commercial.
Voilà, donc la coopétition.
Et je vous invite à lire dans 01 Informatique une humeur sur la coopétition et sur les problèmes de concurrence qui sera publié dans le prochain numéro de 01 Informatique.
Oui, ce sera la semaine prochaine. C'est pas celui de ce matin, c'est celui de la semaine prochaine. Alors, autre nouvelle dans ce tour du monde de l'actualité high tech, c'est la période des résultats annuels. Et puis, en France, les SS2I françaises s'en sortent plutôt bien.
Oui, l'activité est en recul, mais la marge est préservée. Donc, on a bien travaillé sur la rentabilité des entreprises. Ils ont beaucoup travaillé pour soutenir, pour compenser les aléas de la conjoncture. Alors même si le chiffre d'affaires baisse, la profitabilité des entreprises est bonne.
On retrouve ça chez Cap, chez Atos, chez Steria, chez Sopra.
Je vais vous donner des exemples. Capgemini par exemple a une croissance organique qui baisse de 5%, mais la marge opérationnelle est de 7,1%. Atos pareil, ça baisse de 3%, mais la marge est de 5%. Donc tout ça c'est très positif. Les les CSUD françaises ont bien survécu, supporté la crise. Simplement, aucune ne veut donner ne veut être trop optimiste pour le reste de l'année.
Et puis les leviers, c'est l'infogérance, c'est les contrats dans le secteur public, et puis c'est l'offshore. Il y a des résultats contrastés, par contre, du côté des fabricants de PC.
Alors, Dell, il voit ses profits baisser de 5%, alors que chez HP, c'est l'inverse, ils augmentent de 25%.
Et puis alors, on a envie de savoir un peu pourquoi Dell a autant de mal à sortir la tête de l'eau.
Ça fait
plusieurs années quand même que ça... On attend de voir un vrai renouveau chez Dell.
Évidemment, c'est à cause de la crise, et on rappellera que le chiffre d'affaires de Dell est en grosse majorité tiré par les grandes entreprises, et c'est celles qui achètent le moins de PC en ce moment, puisque ce qui se vend en matériel de PC, ce sont les petits netbooks, vous savez, les petits ordinateurs à 399 €. Et HP a beaucoup de relais de croissance, vend beaucoup d'imprimantes, vend des ordinateurs, des PDA, des assistants personnels, même des téléphones, ce que n'a pas Dell, évidemment. Juste préciser que quand on regarde le marché français, plus précisément de la micro, selon une source GFK, on voit Apple qui apparaît maintenant dans le club des 5. 43% de croissance pour Apple, c'est assez hallucinant pour un fabricant de PC. Sur les 10 millions de... Il y a eu 10,68 millions de PC vendus l'année dernière en France, une croissance de 1,7%. Donc le premier, c'est Acer et HP qui se tiennent à un poil à 24%.
Chacun un quart du marché, oui.
Voilà, et donc ils sont vraiment distancés, les seconds et le quatrième, qui sont Dell et Asus, qui eux sont autour de 10%. Donc on a les deux premiers autour de 24%, les deux seconds autour de 10%, et Apple, qui vient de dépasser Toshiba, arrive à la cinquième position, et là, à 5,5%.
On est grand public, on est entreprise, on est tout confondu.
On est tout confondu, hein. Il y a surtout beaucoup de petites entreprises, hein, qui sont comptées dans ces chiffres GFK.
Alors, on a aussi les résultats des ventes sur les mobiles sur l'année 2009.
Oui, alors sans surprise, hein, je ne vous apprendrai pas que l'iPhone a fait une percée.
Incroyable.
Que les téléphones mobiles Android aussi ont fait une percée, mais eux, c'est pour une autre raison, hein, c'est parce qu'il n'y en avait quasiment pas. Donc, quand on vend un téléphone et que l'année d'après, on en vend deux, on a fait 100% de croissance. Mais surtout, ce qui est à noter, c'est que l'iPhone a dépassé Windows Mobile, qui était jusqu'ici la plateforme pas de référence, parce que c'était pas celle qui vendait le plus, c'est toujours Nokia Symbian qui est numéro 1, mais la plateforme de référence en matière de smartphone, notamment pour les entreprises, c'était Windows Mobile.
Ce qui
l'iPhone vient de passer devant.
Ouais, il faudra voir les chiffres en 2010, et là on aura vraiment cette tendance du marché, cette forte poussée d'Apple qui va se prolonger. Alors à partir du 1er mars, à Nice Mida, on va aussi retrouver, on pourra choisir son navigateur dans Windows.
Oui, c'est la fin d'un long feuilleton entre Microsoft et la Commission européenne, une affaire antitrust sur le navigateur, on en a parlé et reparlé, et tout est finalement prêt, hein. L'idée, c'est que maintenant, il va y avoir une installation d'un petit correctif dans Windows, dans tous les Windows, même les Windows XP, pas que les Vista et les Windows 7, où à l'installation en Europe, parce que c'est une décision européenne, on pourra choisir quel navigateur on installe dans son système. On pourra choisir entre Chrome et OEO.
Sans doute une bonne nouvelle pour les utilisateurs. Alors, on va rester sur justement les histoires d'Europe, de Commission européenne, puisqu'il y a une enquête antitrust qui chasse l'autre. C'était Microsoft qui était... Il y a eu Microsoft, il y a eu Oracle aussi, qui était dans la cible de la Commission européenne. Et puis là, c'est Google, hein, que l'on accuse de position dominante.
Oui, et les mouches ont changé d'âne. Hein, c'est plus Microsoft maintenant, c'est Google. Et il y a une enquête surprise qui vient d'être lancée hier, hein, sur une plainte, suite à une plainte qui a été posée par trois sites internet, e-justice, Fondem et Ciao. Et ils accusent que Google de pratiquer...
Ciao.de.
Ils accusent Google de pratiquer anti-concurrentiel qui conduisent à un moins bon classement de leurs résultats de recherche par rapport à ceux de Google, évidemment.
Et la réaction de Google, ils ont pris les devants tout de suite.
Ils ont pris les devants, ils disent non, nous sommes les premiers à admettre que notre moteur de recherche n'est pas parfait, mais vous savez, tout ça c'est de la technologie, c'est du logiciel, c'est compliqué à perfectionner, donc il y a des fois des choses qui apparaissent, mais ce n'est pas de notre fait, on n'a pas fait ça de façon volontaire. Don't be evil, comme je dirais.
On n'est pas le diable,
on fait rien de mal, mais on rappellera quand même que Google est sous le coup d'une autre enquête monopolistique aux États-Unis par l'administration Obama, qui met sur ce côté-là, maintenant sur le côté de la publicité sur Internet, où ils ont un monopole. Et donc, le don't be evil ne suffira pas pour Google.
On va rester avec Google, il y a eu des attaques, il y a eu des cyberattaques sur les sites de Google récemment, et on aurait trouvé l'origine de ces cyberattaques.
Oui, on s'en souvient, c'était au début du mois. Hein, ça fait beaucoup de bruit parce que Google, on admirait le courage de Google de dire « Je menace de me retirer de Chine si on continue à censurer mes résultats de recherche. » Parce qu'en plus, la Chine est un gros marché potentiel. Donc ces cyberattaques, on a finalement remonté la trace et on aurait trouvé une origine dans les universités, dans deux universités chinoises. Alors ça ne veut pas dire que les attaques viendraient des universités, mais en tout cas les ordinateurs de ces universités auraient été utilisés. Mais il y a eu tout de suite un démenti des proviseurs de ces deux universités qui disent « Nous sommes choqués, indignés d'entendre telles allégations qui sont dénuées de tout fondement parce qu'eux ont fait leur enquête et il n'y aurait aucun matériel qui a été utilisé et aucun lien entre les universités chinoises et les militaires chinois.
Bon, affaire à suivre en tout cas. Alors, on reste en cybersécurité, c'est devenu un réel problème. Il y a une étude qui montre que les entreprises souffrent de plus en plus de ces cyberattaques. On en reparlera d'ailleurs avec
nos invités vont en parler un peu plus. Elles sont même 75% à reconnaître avoir subi une cyberattaque l'année dernière. Alors, c'est une étude d'un fournisseur de sécurité, évidemment. C'est Cyberantech, donc, qui est quand même un gros fournisseur et qui a donc beaucoup de petites sondes chez les utilisateurs, donc c'est assez intéressant. Ils ont fait un énorme papier blanc sur la sécurité en entreprise et on apprend que 42% des entreprises ont placé la sécurité en problème numéro 1 devant les catastrophes naturelles, le terrorisme ou même le crime organisé. Et que ces cyberattaques coûtent en moyenne 2 millions de dollars aux entreprises chaque année. Enfin, en tout cas, l'année dernière, elles auraient coûté en moyenne 2 millions de dollars.
Eh bien, merci Anis Mbida, journaliste à la rédaction de 01 pour ce tour du monde de l'actualité high-tech. On a beaucoup parlé sécurité. Justement, on va continuer à en parler avec nos invités. C'est tout de suite sur BFM Radio.
01 Business, l'innovation technologique au service de votre entreprise. Uniquement sur BFM Radio.
Et nous démarrons tout de suite notre débat sur les risques juridiques, sur la sécurité dans les entreprises. Avec vous, Mathieu Prudhomme. Alors, je l'ai dit, vous êtes avocat, directeur du département Internet contentieux du cabinet Alain Bensoussan. Alors, peut-être pour les auditeurs de BFM Radio, juste resituer le cabinet Alain Bensoussan. Aujourd'hui, c'est l'un des cabinets les plus réputés en matière du juridique et du numérique. Voilà.
Bonsoir, je vous remercie. Effectivement, le cabinet a été créé par Alain Bensoussan il y a maintenant un peu plus de 30 ans. Il est dédié au droit des technologies avancées. Donc, on a pu suivre l'évolution des comportements des entreprises, également des délinquants informatiques, c'est bien comme ça qu'il faut les appeler, au sein de différentes structures. Et cette évolution, elle amène à une prise de conscience, je pense, au niveau des entreprises et des collaborateurs des entreprises. Je pense que dans le débat, il faudra insister sur ce point, de montrer que les failles techniques, elles existeront toujours, et que derrière les socles juridiques, la loi, les interdictions, elles sont ce qu'elles sont, mais que sans une approche pédagogique de ces problématiques, on ne trouvera pas les bonnes solutions. Donc nous, au cabinet, c'est très simple, on essaye d'appliquer ces principes déjà pour nous, et auprès de nos clients.
Vous êtes combien au sein du cabinet ?
On est à peu près, on a une petite structure, on est à peu près 70 avocats, dédié uniquement donc à ce monde.
Mais il y a des nouvelles technologies. Fabrice Pizzi, vous êtes, je le rappelle, RSSI du groupe Eiffage. Vous intervenez aussi aujourd'hui en tant qu'expert judiciaire auprès des tribunaux. Ce que disait Anissé, les cyberattaques dans les entreprises, c'est vrai, ça qu'il y a des menaces. Enfin, vous sentez, il y a un peu plus de le baromètre.
C'est un sujet que je maîtrise assez bien parce que j'ai mis des outils justement pour identifier ces attaques, ce qu'on appelle des CIEM ou des CIEM, qui sont des outils qui agrègent et corrèlent les journaux de sécurité. Et en fait, ce que je me suis la conclusion de l'étude sur les CIEM m'a montré que les attaques sont quotidiennes, mais faut-il encore savoir qu'on en a eu. Et beaucoup d'entreprises en fait sont attaquées tous les jours, mais elles le savent pas.
Et alors, c'est quoi le type d'attaque? On a envie de savoir, voilà, parce que le groupe Eiffage.
La question c'est oui. Alors, l'attaque est-elle opportuniste? L'attaque est-elle opportuniste ou est-elle ciblée? C'est la question. En fait, il y a beaucoup d'attaques qui sont faites au hasard.
Voilà, des gens qui lancent des données, ils essaient de voir quelles données ils peuvent récupérer.
Voilà, ils lancent des petites attaques sur un grand réseau et puis ils attendent les réponses et en fonction des vulnérabilités trouvées, ils exploitent les vulnérabilités et après la question c'est est-ce qu'ils utilisent la vulnérabilité pour pénétrer sur le serveur pour voler de l'information ou pour modifier ce qu'on appelle d'effacer le serveur ? Eh bien pas souvent. J'ai vu en fait des pirates qui rentraient sur le serveur, ne modifiaient rien et gardaient de côté le piratage, soit pour l'échanger, soit pour le revendre aussi.
En tout cas aujourd'hui, ce qu'on peut dire sur BFM Radio, c'est qu'on n'est plus dans la science-fiction, les jeux, les films de Spielberg de l'époque. On est vraiment, c'est aujourd'hui un vrai problème.
On n'est plus dans le jeu. Maintenant, on a affaire à des vrais professionnels
qui revendent carrément les accès et tout ça.
Et à une organisation mafieuse qui est en France assez embryonnaire, mais à l'étranger qui est vraiment bien organisée. En Europe de l'Est, on a pour 10 postes d'informaticien, on a un seul job. Donc en fait, tous les gens qui sortent d'université ou d'école d'ingénieur n'ont pas d'emploi. Donc ils se mettent dans des organisations mafieuses, payés 10 fois plus cher.
Bon, eh bien, on va suivre tout ça pendant toute cette émission sur ce débat autour des risques juridiques, puis voir justement que risquent les entreprises et qui est responsable aussi quand il y a des pertes de données ou ces tentatives d'accès frauduleux au système d'information. C'est tout de suite sur BFM Radio.
Dimanche sur BFM Radio, deux grands rendez-vous politiques. La tribune BFM Dailymotion, spéciale élection régionale avec Olivier Mazerolle.
Pour participer, posez dès maintenant vos questions sur internet bfm.dailymotion.com.
Invité à 19h, Brice Hortefeux, l'UMP face au défi de la gauche. Et à 23h, François Bayrou, le Modem va-t-il survivre au régional? La tribune BFM Dailymotion, le rendez-vous politique incontournable du week-end sur BFM Radio et BFM TV.
Le sauvetage tout hiver est aujourd'hui à Tignes-Val-Claret, au pied du funiculaire de la Grande Motte. Venez vous former gratuitement au massage cardiaque et à l'utilisation du défibrillateur avec l'association RMC-BFM et l'association de pisteurs secouristes. Toutes les dates du sauvetage tout hiver sont sur le site www.sauvetagetouthiver.fr. Le sauvetage tout hiver avec l'association RMC-BFM.
BFM Radio, 01 Business, l'innovation technologique au service de votre entreprise. Frédéric Simotel.
De retour avec nos invités pour parler des risques judiciaires en entreprise. On a parlé justement de ces cyberattaques qui sont de plus en plus fréquentes. Et puis, l'un de nos invités, Mathieu Prudhomme, du cabinet Alain Bensoussan, nous a dit que voilà, il y avait aussi une façon, il fallait apprendre aux collaborateurs, il fallait leur inculquer certaines règles, certaines chartes. Et est-ce que c'est un peu votre rôle, Hélène Legras? Je rappelle, vous êtes correspondante informatique et liberté du groupe Areva. Donc, est-ce que votre rôle à vous, c'est d'établir une charte de sécurité informatique au sein du groupe Areva, qui, je le rappelle, c'est 71 000 salariés. Donc,
75 000, voilà. Nous irons même jusque-là.
Voilà, donc il faut les tenir. Hein.
Tout à fait.
Parce que tout le monde aujourd'hui utilise un iPhone, un BlackBerry, un ordinateur portable. Enfin voilà, on se rend compte dans des groupes comme le vôtre que les fenêtres ouvertes, on peut en laisser un peu partout.
Hein. Tout à fait. Et donc, justement, c'est pourquoi j'ai été nommée CIL. Grâce à la loi de 2004, parce que Alex Turc était débordé.
Donc Alex Turc, qui est le président de la CNIL.
Président de la CNIL et un peu l'instigateur de la loi de 2004 qui modifie celle de 1978, la fameuse loi informatique et liberté qui obligeait à déclarer à la CNIL tout traitement de données nominatives. Et la loi de 2004, maintenant, parle de données personnelles. Pourquoi de données personnelles? Parce que nominatives, c'était le nom. Données personnelles, c'est ce qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne.
Donc, ça veut dire que dans des groupes comme Areva ou dans des groupes comme Eiffage avec Fabrice Pitié, enfin, dans n'importe quelle entreprise aujourd'hui, il faut être sûr de ses données, il faut déclarer tout ça, il faut être
alors,
sûr de qui a
accès à quoi. Alors, il faut être sûr de ses données, et grâce au fait qu'on a un CIL, eh bien, on est dispensé de formalités déclaratives, mais c'est pas pour autant qu'on a moins de travail. Mmh. Parce que justement, le CIL a une grande activité pédagogique, et pour ma part, je fais des séances de sensibilisation à la loi informatique et liberté, pour bien la respecter et bien la connaître.
Alors, Hélène Legras, vous faites ça chez Areva auprès des équipes. Alors, ça consiste en quoi? C'est leur dire, voilà, quand vous récoltez des données clients, il faut pas les conserver à tel endroit. Enfin, il y a des choses, je dirais, il y a des processus à mettre en place et puis il y a des outils techniques aussi à utiliser. Vous êtes sur les deux.
J'ai toutes les casquettes. Donc, j'ai la casquette de répertorier toutes les bases de données contenant des données personnelles, de donner des conseils, parce que par exemple, la CNIL est très attachée à ce qu'on appelle le principe de proportionnalité, qui est on ne collecte pas n'importe quoi pour n'importe quoi. Et par exemple, vous n'allez pas collecter dans un annuaire professionnel l'adresse personnelle des salariés, même s'ils sont d'accord pour la donner.
Et alors, sur ce type de... Je vais me tourner vers vous, Mathieu Prudhomme, du cabinet Alain Bensoussan. On cherche aussi des responsabilités. Donc là, qui est responsable? Est-ce que le quelqu'un comme le correspondant informatique et liberté, donc comme Hélène Legras chez Areva, le CIL, est-ce que c'est lui le responsable des données? Est-ce que c'est... Voilà, ça fait beaucoup de responsabilités quand même.
Alors, il y a un principe qui est très clair, c'est que c'est le responsable du traitement, c'est-à-dire la personne qui va définir les finalités du système qui est mis en place et dans le cadre duquel on va traiter effectivement des données qui permettent d'identifier telle ou telle personne, c'est la personne qui va répondre aux obligations qui sont prévues par la loi.
Donc ça peut être un direct, dans le cadre de, mettons, d'une application de relation client avec des données clients, une base de données clients, ça peut être le directeur commercial,
tout
le,
à fait.
Le responsable.
Alors non, c'est la société, c'est l'entreprise proprement dite. Après on peut faire un distinguo, effectivement, il ne faut pas l'oublier, il y a beaucoup de données qui sont traitées en interne par l'entreprise, c'est les données des salariés. Et puis après, il y a le monde de la relation client, de la relation fournisseur. Pour répondre directement à votre question, c'est l'entreprise en tant que telle qui est responsable. Il se trouve que c'est sanctionné pénalement. Donc il peut y avoir une responsabilité du représentant légal de l'entité juridique. Donc ça va être le président. Et il y a un système derrière qui permet de déléguer la responsabilité pénale au sein de l'entreprise, et c'est particulièrement critique, c'est-à-dire qu'on va dégager sur une fonction qui est représentée par une personne, typiquement, si on parle du risque informatique, ça va être généralement le DSI, qui va donc assumer cette responsabilité qui, il faut le rappeler, il faut insister, peut être pénale. Alors il y a des conditions pour que cette délégation soit valable, il faut donner les moyens à la personne.
Et est-ce que je me tourne vers vous, Hélène Legras de Revers, est-ce que les dirigeants, alors que ce soit les DSI sans doute, mais est-ce qu'au niveau des PDG et des directeurs généraux, est-ce qu'ils sont bien conscients de tout ça, ou est-ce que... Alors on voit, chez vous, ils ont nommé un CIL, donc un correspondant informatique et liberté. Voilà, il y a une vraie prise de conscience aujourd'hui.
Ah, tout à fait, et il s'est trouvé que chez Areva, nous avions formé un groupe de travail avec des juristes pour émettre une recommandation à l'intention du directeur juridique groupe qui a été en COMEX, donc le groupe des directeurs, pour présenter cette recommandation qu'il était bien d'avoir un CIL chez Areva, parce que d'accord, on faisait des déclarations CNIL, mais on sensibilisait encore mieux en ayant un CIL, et puis surtout on avait un point d'entrée privilégié à la CNIL, et ça c'est très important.
Voilà, on a au moins une tête, enfin, on a un nom sur qui centrer un peu les demandes et vers qui se tourner.
Et pour revenir sur justement la responsabilité, mm-hmm. il se trouve que quand la CNIL a un CIL en face d'elle, eh bien dans un premier temps, avant de sanctionner pénalement et de sanctionner financièrement, et surtout aussi de sanctionner pour l'image de marque, en publiant la sanction sur le site de la CNIL, et ça, moi je sens que même si je suis irresponsable pénalement, c'est ma conscience professionnelle de vouloir que jamais Areva ne soit sur le site de la CNIL. Et donc quand la CNIL a un problème éventuel, elle se tourne vers moi. Alors, et donc il y a un travail de médiateur.
Ça peut être quoi pour expliquer aux auditeurs de BFM Radio, donc on parle aujourd'hui de ces risques juridiques dans l'entreprise, mais ça peut être quoi, de quoi une entreprise peut être accusée?
Tout simplement, il y a des obligations informatiques et libertés qui sont d'informer le salarié, par exemple, qu'on a collecté ces données, et de lui donner accès à ces données, et depuis un décret de 2007, de lui donner accès à ces données dans un délai de 2 mois.
Donc c'est autant en interne, des données internes, que des données...
Complètement.
Vous parlez des données clients tout à l'heure, que des données clients, voilà.
Tout à fait. Mais en tout cas, par exemple, en interne, le salarié qui demande à accéder à ces données ou demande à modifier ces données, la célibataire qui vient de se marier, qui veut... qu'on rentre dans l'annuaire son nom de femme mariée, ça doit être respecté dans un délai de 2 mois.
D'accord, donc il y a tout un
avant temps. L'existence d'un CIL, elle va peut-être dire à la CNIL, écoutez, moi j'ai un problème chez Areva, j'arrive pas à accéder à mes données. Maintenant, elle ne dépose plus de plainte à la CNIL, elle vient me voir et j'ai vraiment une fonction de médiateur. Et je vais voir la DRH en disant qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on n'a pas accédé à ces données.
Parce que ça peut être, Mathieu Prudhomme du cabinet Bensoussan, les amendes peuvent se monter, ça peut être très élevé.
Ça peut être très élevé, effectivement. Il faut savoir
quand même. On a des cas déjà, enfin, sans citer une entreprise.
Il y a des cas, sans citer d'entreprise, c'est plutôt, on va dire, parce que les pratiques étaient faites ainsi, dans le monde des banques ou des assurances, où on a pu voir des condamnations. Généralement, c'est parce que des rappels à l'ordre n'ont pas été suivis des faits, parce que, nouveau, j'insiste, il y a une culture qui accompagne ces problématiques juridiques, ça prend du temps à mettre en place, et tant que le collaborateur qui lui traite la donnée comme il l'a fait depuis très longtemps, ça va demander un certain temps pour mettre à jour ses comportements. Par contre, je me permettrai une remarque, le risque pour l'entreprise au niveau informatique et liberté, on l'a dit, il y a ce risque pénal. Je vais juste prendre un exemple qui est percutant, c'est que si vous ne mettez pas en place les bonnes pratiques et les pratiques légales qui sont, et ça paraît aller de soi, il y a 3 principes, c'est la proportionnalité, la transparence.
Alors, faut vous
et l'information.
Dire, la proportionnalité, qu'est-ce que c'est ?
C'est-à-dire qu'à un moment, si vous traitez l'accès des salariés et uniquement l'accès pour traiter de la sécurité, dire est-ce que cette personne a le droit de rentrer ici ou pas, c'est pas la même chose que de traiter cet accès pour contrôler l'activité du salarié, notamment les temps de passer dans tel ou tel endroit,
d'accord,
les temps à travailler.
Donc ça, c'est la proportionnalité.
Mais ce qui est important de dire aux entreprises, c'est que le non-respect, par exemple, le fait de ne pas avoir déclaré à la CNIL le traitement, si vous n'avez pas un CIL, ou le fait de ne pas informer les personnes, je vais prendre un exemple, si vous avez un système qui permet de contrôler les temps passés par un salarié au sein de l'entreprise, ou un traitement qui permet de voir ce qu'il fait sur Internet toute la journée, pour des raisons, par exemple, de sécurité, c'est important de savoir où vont les gens, on trace les logs. Si vous n'avez pas informé les gens que ça peut servir également, si on voit qu'il passe 10 heures par jour sur les sites qui n'ont rien à voir avec sa fonction, que ça peut se retourner contre lui, parce que c'est normal que l'employeur sache que font les salariés au sein de l'entreprise.
Donc il y a un peu une logique quand chacun doit avoir, enfin une bonne tenue qu'on doit avoir dans l'entreprise, mais donc il faut quand même leur dire.
Il faut quand même leur dire, et pour une, si on reste terre à terre, pour une très bonne raison, c'est que si vous entamez une procédure de licenciement contre une personne avec des preuves informatiques, soit les logs de connexion, soit des emails, soit les badges d'accès, et que vous n'avez pas fait la déclaration à la CNIL, ou que vous n'avez pas informé les personnes, la Cour de cassation, la jurisprudence française, considère que vous n'avez pas respecté vos propres obligations, la procédure de licenciement, elle saute.
D'accord. Bah on a bien suivi tout ça. Fabrice Pizzi, la menace principale aujourd'hui pour une entreprise en termes de risque juridique, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous avez repéré plutôt ?
En termes de risque juridique pour l'entreprise, c'est un peu délicat. J'aurais voulu revenir sur.
Revenons. Comme dans l'ambiance débat, allons-y.
Moi, je pense qu'en fait, effectivement, il faut qu'il y ait des règles dans l'entreprise pour cadrer l'utilisation de l'informatique, pour qu'effectivement, lorsqu'on intervient et lorsqu'on a les affaires, qu'on sache en fait quelles sont les bornes gauche et droite de nos actions, et aussi que les personnes qui sont concernées par les affaires connaissent leurs responsabilités. Ça, c'est important. La deuxième chose, c'est que la sécurité. Moi, je suis un expert technique, mais je m'aperçois qu'en fait, la mise en œuvre de la sécurité relève avant tout de l'organisation et de la sensibilisation. Deux tiers, en fait, de la sécurité à mettre dans l'entreprise, c'est de la sensibilisation.
Alors, je vais couper, on va revenir dans un instant et on reprendra chacun de ces points avec vous, Fabrice Huidi. On se retrouve après le journal de l'économie sur BFM Radio. BFM Radio, 23h30. Le journal de l'économie, Anthony Latier.
Vers une perte nette record chez Air France. Selon le Figaro, la compagnie prévoit un trou de 1,3 milliard d'euros pour son exercice en cours. C'est 10 fois plus que lors du précédent. Une telle perte ne serait pas vraiment une surprise. Le groupe avait préparé les esprits, mais c'est la première fois qu'il l'annonce à son personnel. Pas de cession d'actifs pour la BPCE, en tout cas pas pour l'instant. Le groupe né du rapprochement entre Banque Populaire et Caisse d'Épargne a publié un bénéfice net de plus de 500 millions d'euros et dévoilé son plan stratégique à l'horizon 2013. François Pérol, son dirigeant, veut recentrer le groupe sur ses métiers historiques. Sa filiale Natixis reste quant à elle dans le rouge et perd encore 1,7 milliard d'euros. La crise s'éloigne en revanche pour le Crédit Agricole, toujours dans le secteur bancaire. La banque qui passe dans le vert au quatrième trimestre, le bénéfice net pour l'ensemble de l'année est en hausse de 10% à plus d'un milliard d'euros malgré de nouvelles dépréciations d'actifs. Lundi prochain, Georges Poget confie la direction de la banque à Jean-Paul Sifflet. Autre passage de flambeau, cette fois à la tête de France Télécom. Stéphane Richard prend ses fonctions dans quelques jours, mais c'est lui qui a présenté les résultats de l'entreprise aujourd'hui, avec notamment un bénéfice en baisse de 6,5% en ligne avec les attentes du marché. Autre résultat, ceux de Saint-Gobain, les profits plongent de plus de 80% en 2009. Le fabricant de matériaux de construction s'attend à une forte croissance de son résultat d'exploitation pour cette année. C'est la rumeur la plus tenace du moment. Selon le site Van Square, l'Elysée aurait pris sa décision. Anne Lauvergeon serait débarquée la semaine prochaine de la présidence du directoire d'Areva. Information démentie par l'Elysée. Un investisseur turc va-t-il sauver Eliès ? C'est en tout cas ce qu'annonce Christian Estrosi, le ministre de l'Industrie l'assure. Un entrepreneur qui dirige un fonds d'investissement européen est capable d'injecter 20 millions d'euros dans l'équipe anti-automobile. Des négociations doivent s'ouvrir. Le chômage va encore grimper au moins jusqu'à la moitié de cette année. C'est ce que déclare le Premier ministre François Fillon, alors que le nombre de demandeurs d'emploi est reparti à la hausse en janvier. Ce matin, Laurent Wauquiez a lui confirmé que le gouvernement allait aider financièrement avec l'UNEDIC les chômeurs en fin de droit. Il promet plusieurs millions d'euros. Et puis la Banque Centrale Américaine met son nez dans les affaires de Goldman Sachs. Selon son patron Ben Bernanke, la Fed examine les contrats relatifs à la dette grecque. La banque d'affaires est soupçonnée d'avoir aidé le pays à maquiller l'ampleur de cette dette grâce à des produits financiers complexes.
BFM Radio, 01 Business, l'innovation technologique au service de votre entreprise. Frédéric Simotel.
On se retrouve sur BFM Radio avec nos invités pour parler des risques judiciaires en entreprise, des risques juridiques, de la sécurité en entreprise avec nos invités. Mathieu Prudhomme du cabinet Alain Bensoussan, Fabrice Pizzi du groupe FH et expert judiciaire auprès des tribunaux, et Hélène Legras, correspondante informatique et liberté du groupe Areva. Alors, dans l'autre partie de ce débat, on vous a coupé un peu dans votre élan, Fabrice Pizzi, sur ce qu'il fallait ce qu'il fallait faire, enfin ce qu'il fallait mettre en place. Donc vous parliez de, il faut que les communiquer auprès des collaborateurs, oui. Que cette charte.
Qu'il y a des règles, alors qu'il y ait une politique de sécurité adaptée en fonction de la population, c'est-à-dire que on doit faire une politique pour les dirigeants, mais aussi une politique pour les gens de la direction informatique et des procédures pour les techniciens.
Voilà, on n'est pas obligé de déployer la même pour tout le monde. Il faut évaluer certains niveaux.
Il faut s'adapter au langage de chacun. Il faut se mettre au niveau. Et surtout par rapport aux besoins. Il faut comprendre. En fait, quand vous voulez obtenir quelque chose de quelqu'un, il faut vous demander de quoi il a besoin aussi, lui, de son côté. Mm-hmm. Donc, si vous le faites en sécurité, finalement, c'est souvent vu comme une exigence et pas comme quelque chose qui apporte quelque chose. Donc, il faut vraiment essayer de montrer aux gens par la sensibilisation que la sécurité peut être quelque chose qui va amener une amélioration dans le système d'information.
Alors, vous parliez aussi d'organisation.
Oui, les aspects. En fait, améliorer la sécurité, c'est avant tout améliorer l'organisation liée autour de la sécurité par mise en place d'une chaîne fonctionnelle de la sécurité qui se décline sur tous les sites. Donc finalement, des correspondants qui sont des relais pour remonter les incidents, mais aussi des relais pour sensibiliser. Parce que chez FH, nous avons plus de 800 sites avec beaucoup de chantiers qui sont mobiles. Donc il est important d'avoir ces relais qui ont la compréhension des aspects de la sécurité, parce que la sécurité dépend de son maillon le plus faible. Donc si sur un site, typiquement un exemple, vous avez quelqu'un qui met une borne ADSL avec un lien à 20 mégas, vous pouvez mettre sur un data center plusieurs centaines de milliers d'euros pour protéger vos data centers. Ça ne sert plus à grand chose si au sein d'entreprise.
Quelqu'un qui a ouvert une porte quelque part.
Voilà, on parle d'obligation de protéger les accès, les filtres, le filtrage internet. Si la borne ADSL existe, l'entreprise ne peut plus filtrer son accès.
Et puis ce qu'on sent à travers ce que vous expliquez là, c'est que c'est pas seulement, on n'est pas seulement sur de la technologie, on est sur de l'usage. Ça peut être n'importe qui. Vous parlez des chantiers chez FH, mais chez Areva, j'imagine aussi des gens sur des sites. C'est pas forcément des gens technophiles, quoi. Ils peuvent ouvrir une application et sans faire attention que ça ouvre des failles.
Exactement. Alors justement, ce qui me choque aussi, c'est que les failles, pour moi, sont plus applicatives que sur l'infrastructure. Et pourtant, les solutions.
Là, c'est le technicien qui parle.
Voilà. et en fait, ce qui me choque, c'est que les solutions qu'on apporte, que les intégrateurs ou les éditeurs apportent, sont surtout au niveau de l'infrastructure et pas au niveau de l'application. Et on va pas assez haut. Et finalement, les attaques les plus importantes sur Internet, on le voit, elles sont au niveau applicatif. Et dans l'entreprise, elles sont aussi au niveau applicatif, mais un peu différemment. C'est ce qu'on appelle une élévation de droit. C'est-à-dire que ce sont des gestionnaires qui ont accès à l'application, qui connaissent bien l'application et aussi ses défauts. Donc là, on n'a plus affaire à des hackers. On a affaire en fait à des personnels internes qui abusent en fait du système pour des raisons financières, pour faire du détournement de fonds. Et là, c'est la traçabilité de l'information, c'est savoir qu'est-ce qui se passe. Et à mon avis, le vrai risque, il est là. Les hackers, c'est anecdotique pour moi.
Mm-hmm. Et le CIL, il est responsable aussi. On parlait tout à l'heure des données personnelles sur les salariés, de données sur les clients. Mais le CIL, il est responsable aussi de ce dont parle Fabrice Pizzi.
Tout à fait. Et dès que j'ai été nommé CIL dans le groupe Areva, je me suis bien douté.
J'ai mis une casquette de policier et puis hop.
Non. Il faut surtout pas tomber dans la paranoïa. Pas. Et justement, il faut sensibiliser les personnes, leur dire qu'il y a des données sensibles qu'il ne faut pas collecter, genre les données ethniques, raciales, mm-hmm. qu'il faut faire attention si on fait des flux transfrontières hors Union européenne, parce que par exemple aux États-Unis, si on n'a pas adhéré au Safe Harbor pour la CNIL, il n'y a pas de sécurité, de confidentialité, on n'est pas dans un climat de confiance.
Oui, c'est dans les groupes internationaux, voilà, on imagine bien
donc
les enjeux.
Donc on fait très attention à ce genre de choses, mais c'est vrai aussi que j'ai tout de suite créé mon réseau informatique et liberté dans la DSI où effectivement il y a beaucoup de données personnelles. On met en œuvre les bases de données informatiques avec la DRH qui collecte des données pour la gestion du personnel, pour la paye.
Oui, parce que même si la CNIL, informations sur les salaires. Oui.
Voilà, et même si la CNIL vous dit qu'il y a une dispense de déclaration pour la paye, vous avez des données ô combien sensibles dans la paye. Et puis, par exemple, il faut respecter le droit à l'image. Parce que le droit à l'image, c'est pas simplement la loi informatique et liberté, c'est aussi l'article 9 du Code civil. Et donc, dès qu'on arrive dans le groupe Areva, on est pris en photo pour son badge, et bien tout de suite, on complète une autorisation que j'ai mise en place pour dire « oui, je suis d'accord pour être dans l'annuaire ».
D'accord. Donc il y a tout un tas et lorsqu'on parle de cette cybercriminalité mais interne, à dire, est-ce que ça c'est c'est sous la responsabilité du CIL aussi de voir que les bonnes personnes ont accès aux bonnes informations et...
Tout à fait, parce que la CNIL nous dit de veiller à quoi ? À avoir donc une parfaite proportionnalité entre les données collectées et les données et la finalité, comme je vous le disais tout à l'heure. Pourquoi collecter l'adresse personnelle d'un salarié pour l'annuaire professionnel? C'est intéressant de savoir que je travaille 33 rue Lafayette. C'est pas intéressant de savoir où est-ce que j'habite à titre personnel. Mmh. Et par exemple, donc, on veille à ce que les administrateurs de base ne créent pas des champs que le salarié pourrait compléter lui-même, mais qui ne serait pas en parfaite proportionnalité.
D'accord. Oui, Mathieu Prudhomme de la
Mission. On identifie bien le risque pour l'entreprise, on l'a évoqué à plusieurs reprises, sur le non-respect de la loi informatique et liberté. Mais si on essaie de classifier un peu les risques pour l'entreprise, en termes au sens large de cybercriminalité, en fait, il y a deux types de risques. Et pour l'entreprise, il y a les infractions qui sont commises par les salariés à l'occasion de leur contrat de travail, c'est-à-dire, on pourra en reparler, le salarié qui passe son temps à télécharger des choses illicites à partir de son poste.
Instant, oui.
Donc ça, c'est un premier type de comportement. C'est un risque pour l'entreprise parce que l'employeur, il est responsable de ce que font ses collaborateurs. Ensuite, il y a un deuxième risque qu'il faut gérer. C'est finalement le risque qu'il y a une valeur. L'information, elle est devenue la valeur essentielle des entreprises, de la plupart, en tout cas dans le secteur tertiaire. Et cette valeur, il faut la protéger. Il faut en assurer la sécurité. Donc le risque pour l'entreprise, c'est la diffusion de cette information qui peut être confidentiel. Et on le sait, malheureusement, la fuite, elle provient, pour diverses raisons, volontaires ou involontaires, des collaborateurs. Et ce sur quoi il faut insister, à mon avis, la charte, ce qu'on appelle la charte de l'utilisation des outils informatiques dans l'entreprise, maintenant, il faut parler de génération 4. Je m'explique très brièvement. Elle a été définie, déjà, le terme de charte, on pourrait parler de règlement intérieur. C'est pas un code d'éthique, non, c'est des règles qui s'appliquent aux salariés, avec des droits et des devoirs. Maintenant, on va expliquer, vous devez respecter la loi, vous ne pouvez pas utiliser ce matériel uniquement à des fins personnelles, il peut y avoir une tolérance, c'est ce qu'on appelle la vie privée résiduelle. Par contre, il y a un nouvel élément, c'est finalement le comportement du collaborateur à l'extérieur de l'entreprise. Et là, on le vit, on a des dossiers dans lesquels, finalement, avec les comptes qu'on a sur les réseaux sociaux...
Voilà, j'allais dire, on parle des réseaux sociaux,
voilà,
là, par exemple.
Et on peut, sans parler de Google hacking, etc., on voit bien que si on croise des informations... Moi, j'ai des dossiers où j'ai pu identifier des personnes responsables. Je me disais, mais bon sang, je ne fais pas le lien entre ces trois sociétés. Et je sais qu'elles sont en lien parce qu'il y en a une qui m'a piraté ma base de données et l'autre qui l'exploite. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris le cabis, j'ai sorti les noms des dirigeants, je suis allé sur Facebook... J'ai vu ça. Donc, si un avocat peut le faire, je pense qu'un délinquant informatique, lui, sait faire et se faire passer pour un ancien ami, un ancien collègue, récupérer de la donnée confidentielle sans même que le collaborateur, s'il n'a pas été sensibilisé, fasse attention. Donc, attention, les chartes doivent aussi, en tout cas, la relation entre l'employeur et les collaborateurs, il faut une sensibilisation, il faut des règles du jeu aussi sur ce thème-là. Il ne faut pas voir, avec le monde virtuel, on ne peut pas rester, dire, voilà, qu'est-ce que vous faites pendant que vous êtes à votre poste. D'ailleurs, le poste qui peut être ailleurs. Tout le monde maintenant a des outils.
Et puis, on travaille le week-end, grâce aux outils. Fabrice Pizzi, oui.
Surtout, on s'aperçoit que les statistiques montrent que l'usage qui est fait d'Internet est avant tout personnel. 80% des statistiques montrent que c'est pas professionnel, malheureusement.
Si on regarde dans toutes les entreprises, c'est vrai que quand on va sur Internet, oui, c'est globalement, c'est plus à titre personnel que, à moins dans des sociétés spécialisées.
Et après, effectivement, maîtriser la communication des salariés qui parlent au nom de l'entreprise vers l'extérieur. Et ça, c'est très important. Je pense qu'il y a une grande ouverture maintenant avec le web 2.0, avec les sites comme Facebook.
Et vous avez remis à jour, du coup, vos règlements par rapport à ça.
En particulier sur ce sujet-là, en fait, effectivement. Tout ce qui est forum, blog et réseaux sociaux, on a été très clair là-dessus.
Parce que c'est apparu très vite en plus. Et puis en même temps, on ne peut pas l'interdire. Enfin, je ne sais pas, Hélène Legras, comment ça se passe chez Areva, mais en même temps, on ne peut pas interdire aux gens d'aller sur des réseaux sociaux parce que déjà, il y a certains qui sont professionnels, donc ça peut leur servir pour leur faire des affaires. Et puis sinon, c'est la vie aussi de chacun. Quoi. Sur Facebook, c'est de la vie personnelle.
Mais justement, chez Areva, nous veillons bien à respecter la vie privée du salarié. Et c'est sûr que si vous avez une fuite d'eau le matin, eh ben on ne va pas vous empêcher de téléphoner à votre plombier et retrouver le soir votre appartement inondé. Par contre, sur les postes professionnels que met à notre disposition Areva, nous ne pouvons pas accéder à Facebook. Et nous avons créé justement pour sécuriser notre réseau, le réseau ArevaNet. Ce qui fait que du coup, ce n'est pas n'importe quel site extérieur qui peut rentrer chez nous et on ne peut pas non plus, nous, se connecter à n'importe quel site extérieur. Et ça, c'était vraiment pour la sécurité, parce que la sécurité, effectivement, j'y travaille, mais j'y travaille avec qui ? Mes collègues de la DSI, qui ont par exemple mis en place une procédure des logiciels proscrits. Mmh. Parce qu'il y a aussi le risque par le virus.
Oui,
et par exemple, il y a quelques années, il y a eu le virus Ethan. Ethan, c'était quoi ? Ben, ça bouffait vos adresses mail. Et donc, ben, on perdait comme ça tout notre carnet d'adresses et nos données personnelles. Et donc, la loi d'Étreigne, elle est justement en train de vouloir veiller aux failles de sécurité et rendre leur notification obligatoire à la CNIL. Et la loi d'Étreigne, eh ben, elle va être sûrement votée très vite puisqu'elle va être présentée prochainement, le 23 mars.
Et la loi d'Étreigne-Escoffier. D'accord, voilà.
Donc c'est une nouvelle loi qui, entre autres, rendrait le CIL obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés et surtout rendrait obligatoire la notification des failles de sécurité.
Eh bien, on va se retrouver tout de suite. Enfin, non, on ne va pas tellement s'éloigner de notre débat parce qu'on va parler de téléchargement illégal avec Élise Barbet.
01 Business, l'innovation technologique au service de votre entreprise. Uniquement sur BFM Radio.
Élise Barbet, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Alors, vous êtes journaliste chez 01 et vous avez chronique. On a ces petits coups de cœur, coups de gueule, coups de griffe des journalistes de la rédaction au sein de cette émission 01 Business sur BFM Radio. Alors vous, cette semaine, on reste dans notre univers. Vous allez parler de téléchargement illicite, mais pas n'importe où, dans l'entreprise.
Dans l'entreprise, hein, pourquoi prendre des risques en téléchargeant illégalement des MP3 à la maison alors qu'on peut le faire au travail, hein. C'est visiblement l'état d'esprit dans lequel se trouveraient certains internautes.
Qui, face
à un renforcement de la législation autour des pratiques de téléchargement, préféreraient leur entreprise à leur domicile pour y exercer leurs activités illégales.
Et donc, il y aura un téléchargement d'entreprise qui serait en plein essor, selon certaines études.
C'est ScanSafe qui le dit, un éditeur spécialisé dans les services de sécurité hébergés, donc qui déclarait le mois dernier...
Il prêche un peu pour sa paroisse aussi, voilà, il est...
Quand même, voilà, il déclarait une hausse de 55% de ses pratiques en entreprise.
Quand même, oui.
Et Jean-François Audenard, qui est responsable sécurité chez Orange Business Services, relevé de son côté un certain nombre d'exemples qui l'ont amené à s'interroger sur la question.
Et qu'est-ce qu'il voyait comme exemple ?
Alors on a par exemple une mairie dans les Ardennes, un réseau de distribution de produits pharmaceutiques, un hôtel d'une grande chaîne situé près de l'aéroport de Roissy, ou encore l'ambassade parisienne d'un état du continent africain.
Donc voilà, qui ont ces soucis de téléchargement. Alors c'est un problème qui concerne toutes les entreprises, quel que soit leur métier et leur taille.
Et oui, ça concerne potentiellement toutes les entreprises, rappelez Jean-François Audenard, donc responsable sécurité chez Orange Business Services. Il faut également savoir que dans le cas de téléchargements illégaux, le responsable, puisqu'il en faut un bien sûr, est toujours le détenteur du contrat d'accès. Et les entreprises doivent donc avant tout mettre en place des moyens de traçabilité pour remonter à la source en cas d'infraction.
Eh bien merci Élise Barbet pour cet éclairage. Et on va se tourner tout de suite vers nos invités. Alors ce téléchargement illicite, oui, il y a Fabrice Pizzi des Fages et puis
Excel. C'est d'autant plus vrai que les moyens d'accès à ce téléchargement se sont diversifiés. Auparavant, on avait quelques sites, il y a quelques années, quelques sites qui permettaient le téléchargement de MP3. Après, on a eu le peer-to-peer. Finalement, les moyens techniques ont permis de bloquer ces accès. Mais maintenant, on a des sites spécialisés comme RapidShare, MegaUpload ou d'autres qui sont des sites où on peut poser des films, des MP3, des jeux. On peut être amené à déposer des plans parce qu'en fait, on a besoin de déposer 1 giga de données. Et ça peut être aussi professionnel.
Donc, la traçabilité dont on parlait tout à l'heure, prévenir les salariés. Donc, on a bien compris, il faut prévenir les salariés. Salariés qu'on peut les tracer sur leur connexion, enfin leur parcours internet. Par contre, sur les sites, oui, c'est
un free.
Il y a des sites qui servent à autre chose.
Vous trouvez des DivX qui sont partagés, accessibles.
Et alors là, comment on fait ? Parce qu'on ne peut pas être derrière chaque utilisateur. Non, on repère ceux qui téléchargent beaucoup.
Non, en fait, alors tout des problèmes en fait du traitement qu'on utilise. Hein. C'est la notion de traitement automatisé est importante. Là, il y a une déclaration. Nous, on n'a pas de traitement automatisé qui permette de trouver une personne, mais on a de façon manuelle, on est amené à faire des statistiques sur les machines qui consomment le plus et sur les sites qui téléchargent le plus.
Et de là, vous remontez ainsi la
voilà. Piste. Alors là, on parle encore de sensibilisation et pas de répression. On essaye d'expliquer aux gens. Il faut pas, en fait, effectivement, je crois que dans l'entreprise, il faut y aller par petits pas.
Oui, puis parfois, bon, même si les gens savent que c'est pas forcément légal, ils se disent bon, c'est un petit truc de temps en temps.
Et quand il y a des abus, après, il faut.
Oui, là, il faut un peu plus réprimer et sanctionner. Eh bien, merci à tous. On se retrouve dans un instant sur BFM Radio avec nos invités. On va continuer à parler des risques juridiques en entreprise autour du numérique.
BFM Radio et le Journal du Golf présentent BFM Golf, la seule émission radio sur le golf. Chaque semaine, Arnaud Tillius et ses compères reçoivent un chef d'entreprise passionné de golf. BFM Golf, une heure consacrée à l'actualité du golf en France et à l'international. Matériel, conseils techniques et pratiques, le golf côté pro. Interview, compétition et sponsoring, le golf côté éco. BFM Golf avec Arnaud Tillius et le Journal du Golf, le vendredi à 23h et le dimanche à 6h, uniquement sur BFM. Radio.
Et si cette semaine, je vous révélais toute la vérité ? D'abord, on dira stop aux idées reçues sur la micro. Enfin, je testerai pour vous 10 disques durs de poche grande capacité à partir de 100€.
Attirant et tellement pratique. Micro Hebdo, c'est un contenu clair. Design, avec toujours plus d'actu, de tests et d'astuces pour 1,95€. Micro Hebdo, simplifiez-vous la vie.
Partout en France, BFM Radio, la radio de l'écho. À Caen, 107.1.
Ce qui détruit les emplois, c'est la hausse du coût du travail au niveau du SMIC. C'est-à-dire le SMIC plus, le SMIC plus, les cotisations sociales, pas très mal.
Découvrez toutes les fréquences de BFM Radio sur bfmradio.fr. À Toulon, 87.9.
C'est un débat qu'on peut pas avoir en France, c'est quand même problématique.
BFM Radio à Nantes, 107.2.
Plus on est aidé, moins on paye ses salariés.
Sur le fond, je n'ai rien à redire. Ce qui a été dit fort bien et fortement.
À la maison, ou en voiture, en vacances, ou au bureau, partout en France, BFM Radio, toute l'écho, où vous voulez.
BFM Radio, 01 Business, l'innovation technologique au service de votre entreprise. Frédéric Simotet.
Encore quelques minutes pour continuer à parler des risques juridiques en entreprise, de sécurité en entreprise, avec nos invités Mathieu Prudhomme du cabinet Alain Bensoussan, Fabrice Pizzi, RSSI, responsable sécurité au groupe Eiffage et expert judiciaire auprès des tribunaux, et Hélène Legras qui est correspondante informatique et liberté, CIL, hein, comme on le dit, au groupe Areva. Alors on parlait il y a un instant du téléchargement illicite et voilà, on connaît cette loi Hadopi. On peut avoir son accès coupé. Ça voudrait dire qu'il y a des entreprises, je me tourne vers vous, Mathieu Prudhomme. Le cas extrême, c'est qu'une entreprise ait son lien coupé. Enfin bon, on y croit pas trop quand même.
En pratique, on imagine difficilement la situation. Sur le papier, c'est tout à fait envisageable. S'il est constaté que par le biais d'un accès Internet, il y a des téléchargements illicites, on va rappeler à l'ordre le titulaire de l'abonnement. Généralement, c'est l'entreprise. Si c'est pas suivi des faits, on peut tout à fait imaginer, à titre de peine complémentaire, il faudra que ce soit complémentaire à une autre sanction, on ne sait pas encore bien quelles seraient les infractions, mais la sanction, elle est simple, c'est la suspension de l'abonnement Internet. On imagine tout de suite les conséquences. Par contre, ce qu'il faut rappeler, Hadopi, c'est un élément nouveau, le droit de l'Internet, ce n'est pas construit qu'avec des nouvelles lois, il y a quand même un principe qui ne change pas, c'est que l'employeur il est responsable de ce que font les salariés. Donc si le téléchargement illicite il a lieu depuis le lieu de travail avec les outils de l'entreprise, ça va retomber sur l'entreprise. Il y a déjà des jurisprudences, elles sont connues, c'est pas forcément sur du téléchargement illicite, c'est sur du bombing, de la provocation de déni de service. Ça a été fait à partir d'un salarié qui était fâché avec son ancien employeur.
Et qui a lancé.
C'est le nouvel employeur qui a été condamné.
Sur le téléchargement illicite, Hélène Legras d'Areva, je rappelle aussi, vous êtes administrateur de l'AFCDP, c'est l'Association française des correspondants de données personnelles, donc c'est l'association des CIL, on va dire, de tous les correspondants informatiques et liberté. Autour de ce téléchargement illicite, c'est vous aussi, enfin, vous êtes chargé aussi d'éduquer les salariés, les utilisateurs.
Alors,
autour de
c'est
tout ça.
Plutôt la DSI et les DRH qui s'en en charge. Et justement, comme je vous l'ai dit, nous avons créé notre réseau ArevaNet. Ce qui fait que, justement, pour éviter des téléchargements illicites, on peut pas faire de téléchargement. Comme voilà. Ça, au moins, on n'a pas accès aux bonbons, on risque pas l'indigestion.
Voilà. Et puis ceux qui en veulent vraiment, bah, ils font la demande et puis on peut.
Ou ils le feront de leur domicile, comme Facebook. Les salariés d'Areva peuvent le faire de leur domicile, mais ils ne peuvent pas le faire sur leur poste de travail.
Alors, on parlait de téléchargement, on a parlé de Divi, quelque chose comme ça, au sein de l'entreprise. Mais Fabrice Pizzi, on peut aussi avoir du téléchargement de programmes, de logiciels qui peuvent servir à son travail. Quoi. Si un employeur dit non, j'ai pas le budget pour laisser à son salarié travailler avec un logiciel, on peut imaginer le salarié qui contourne un peu et qui va. Oui. Ça peut arriver.
Ça arrive.
Et surtout que
les éditeurs de plus en plus maintenant auditent les entreprises. Et vont dans les entreprises, ont vraiment des actions fortes pour réclamer en fait un inventaire des licences installées sur les postes de l'entreprise.
Et là, ça fait mal aujourd'hui quand on.
C'est à 6-0. Hein.
Ouais.
Quand il y a des, oui, donc ça fait mal. Et là, c'est pas des films. On en a plusieurs qui sont très actifs sur le sujet. Et donc, il y a une solution qui est simple. C'est en fait d'avoir une idée exacte de ce qui est installé sur le parc avec un inventaire installé sur tous les postes et de suivre, et ça on le fait, de suivre ce qui est installé sur la machine. Et quand
Des outils, pour bien préciser aux auditeurs de BFM Radio, il peut y avoir des outils automatiques qui scannent en permanence.
Au démarrage, on sait ce qui est installé sur le PC de la personne et c'est remonté sur une base nationale et on voit en fait le nombre de licences installées.
D'accord.
Et ce qui permet de dire si AutoCAD est installé sur un poste sur lequel il ne devrait pas, monsieur, vous les installez. Alors que c'est un logiciel professionnel. Alors on a ces logiciels professionnels, mais on a aussi des logiciels qui sont téléchargés sur des sites pirates, qui pourraient servir par exemple à créer des PDF. Qui lors de l'installation installe un virus.
Ah, il y a ça aussi, ça c'est l'autre danger.
Voilà, on a un aspect légal par rapport à la propriété intellectuelle, mais on a aussi un aspect lié à la sécurité. Et il faut savoir que maintenant les réseaux de virus communiquent entre eux, c'est-à-dire que ces machines, quand elles sont vérolées, elles se mettent à jour, elles communiquent en peer-to-peer sur des réseaux chiffrés, elles sont très complexes, elles répondent à un patron. Et ensuite, après, elles vont jusqu'à consommer 20 à 30% de la bande passante du réseau.
Oui, vous parlez de réseau, c'est un vrai réseau de virus.
C'est un vrai réseau. Il faut savoir que les virus évoluent. Ils ont une vocation maintenant plus de détruire la machine. Au contraire, ils vont vous la protéger, votre machine. Mais pas pour vous aider, pour éviter qu'un autre pirate vienne pirater cette machine-là. Et c'est là le vrai risque. Parce qu'après, ils vont revendre votre machine. Et jusqu'à présent, on pensait que c'était...
C'est une économie qu'on ne soupçonne pas, revendre des accès à des entreprises, des accès frauduleux à des entreprises.
Et ils vont jusqu'à limiter le nombre de machines qu'ils ont dans leur réseau, parce qu'après, ils n'arrivent plus à le gérer. Ça fait exploser leur console d'administration. On a des virus comme Conficker, où on estime à 5 millions de machines qui sont aujourd'hui vérolées. Un quart des machines d'internet sont vérolées et elles sont revendues quelques euros pour faire des actions de déni de service distribuées chez des concurrents, envoyer des spams, de la pédophilie. Et jusqu'à présent, je le voyais, c'était surtout chez les particuliers.
Et aujourd'hui, c'est dans l'entreprise.
Oui, parce qu'en fait, maintenant, internet a des technologies tellement avancées avec le web 2.0 et finalement, on met des pare-feux, ce qu'on appelle des firewalls. Mm-hmm. Mais en fait, un firewall, c'est un mur très très épais, mais avec des gros trous dedans. Et dans ces gros trous, on fait passer des flux. Et dans ces flux, en fait, c'est là qu'on a un problème, c'est qu'on contrôle plus ce qui passe. Et concrètement, sur Internet, on peut faire passer par le flux HTTP, par le flux web classique, un certain nombre de protocoles qui permettent, en l'occurrence, aux virus de passer et de communiquer avec leur patron et d'attaquer le réseau.
Et ça, dans l'entreprise, vous, Fabrice Pizzi, vous sentez, alors on parle des phages parce que vous travaillez chez les phages, mais enfin, quand vous discutez avec d'autres responsables sécurité, il y a une vraie prise de conscience des salariés aujourd'hui qui font un peu moins n'importe quoi, ou bon, ça continue à être un peu la jungle.
Je distingue deux populations. Dans l'entreprise, il y a une vraie sensibilisation à la sécurité, parce qu'il peut y avoir des incidents, et dans le cas des incidents, on a les applications métiers qui tombent. Mmh. Donc là, en fait, on a le core business
qui s'arrête,
et là, on comprend qu'il y a un problème de sécurité. Et après, j'ai une deuxième population, et c'est une population plus jeune, qui est dans le cadre de ma vie extra-professionnelle, puisque je suis enseignant à Sorbonne. C'est une population qui est plus jeune, et là, elle est beaucoup moins sensibilisée, et ce sont des futurs cadres de l'entreprise.
Et limite, elle comprend pas non plus, elle se dit, mais genre, j'ai accès à des
Internet, c'est un espace de liberté.
De wiki,
voilà, c'est ça. Donc en fait, ils mettent leur information privés sur Internet, dans des réseaux comme Facebook, et finalement après il y a des recruteurs qui vont trouver leur information, et ça leur reste après, 10 ans après, ils sont cadres dans l'entreprise, et puis cette information, bah, en fait, quand ils faisaient la fête, on les retrouve en photo, déshabillés sur une table, c'est arrivé à un collaborateur.
Je crois qu'on connaît tous des cas comme
ça. Et ça, c'est très difficile à enlever, et puis ils ont une vision de la sécurité qui est très très faible, une maturité qui est faible, et ces gens-là, en fait, quand ils rentrent dans l'entreprise, on a du mal à les coacher. Donc c'est pour ça aussi que je rentre dans l'université pour aller en amont, très en amont de l'entreprise, et expliquer aux jeunes qu'il y a des risques et qu'ils seront responsables un jour de ces des vulnérabilités qu'ils vont introduire dans l'entreprise. Et il faut le faire tout de suite.
Et d'après ce que vous dites, alors je vais me tourner vers Hélène Legrand ou Mathieu Prudhomme, on se rend compte aussi que celui qui doit donner cet élan, cette charte de sécurité, il faut la donner au niveau technique, il faut la donner au niveau usage, enfin, organisation, il faut la donner. Donc c'est le juriste, c'est le DRH, c'est le DSI, c'est un peu tout le monde, quoi.
C'est l'entreprise, voilà, je dirais. Parce que justement, nous, direction juridique, par exemple, le téléchargement, pourquoi est-ce qu'on lutte contre ? Parce qu'il y a le droit d'auteur. Et donc, nous avons vraiment à cœur, sur un poste, il y a un logiciel. Un logiciel est égal à une licence. Et ça, on y fait très attention. Surtout qu'en plus, par le téléchargement même d'un logiciel gratuit, vous pouvez faire entrer un virus chez Areva et ça peut faire des dégâts considérables. Et puis, il faut penser aussi à l'aspect nom de domaine. Parce que pendant 15 ans, je me suis occupée des noms de domaine du groupe Areva. Et il faut savoir que parfois, vous avez des cybersquatteurs qui déposent un nom et qui ensuite vous envoient un joli petit mail en vous disant
« Ah,
j'ai vu que vous aviez oublié de déposer ce nom. Je suis prêt à vous le revendre. »
Oui, avec et dans les points or, points biz,
points biz, points net et Jean-Loup et des meilleurs. Et dans ces moments-là, parce que vraiment, à une époque, les noms étaient déposés pour éventuellement mettre en ligne un site, éventuellement dire des choses, faire passer des messages. Maintenant, c'est vraiment à but lucratif. Et nous, à ce moment-là, automatiquement, nous attaquons. Et nous avons une aide fort précieuse. Je tiens à rendre hommage à Nathalie Dreyfus, du cabinet Dreyfus, parce que vraiment, elle nous aide dans la récupération de ces noms de domaine. Et elle les récupère.
Donc là, il y a un gros souci. Mais Mathieu, puis ce sera vous qui d'ailleurs va aller conclure voilà, cette émission.
Je voudrais conclure sur finalement les moyens d'action. Vous le rappelez. Et pour rebondir sur la partie nom de domaine, on pourrait même imaginer qu'on reproche à l'entreprise de pas agir. Moi, j'ai des cas dans lesquels, effectivement, sous couvert d'un nom de domaine qui ressemble, d'un site internet qui ressemble étrangement au vôtre, il y a des gens qui se font avoir. Généralement, ça va être pour collecter des données personnelles, de l'argent, le phishing. C'est pas pour rien qu'il y a un projet de loi sur l'usurpation d'identité.
Oui, on en a pas parlé à l'émission, mais c'est vrai, c'est un vrai souci.
C'est des millions d'euros. Là, c'est auprès des particuliers, des entreprises.
On l'a vu avec Haïti, où là, tout le monde a reçu des spams de réfugiés.
Malheureusement, ça fonctionne. Problème de sensibilisation également des personnes. Seulement, c'est fait sous couvert d'une marque. Donc, si vous réagissez pas à l'encontre de ces sites, vous heurtez, on va vous le reprocher à un moment. Donc comment faire pour retrouver ces personnes? On peut déposer une plainte pénale. Le contexte international fait qu'on arrive rapidement à une problématique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2 jours, on peut, grâce à l'adresse IP, c'est à ses limites, identifier, on fait une requête afin d'identification auprès du juge pour pouvoir identifier la personne. On fait constater